le monde, bienvenue à cette troisième édition de Terrain Basique, votre podcast québécois entièrement dédié à Magic the Gathering. Comme à chaque semaine, je suis flanqué de mon bon ami Jason Keys.
Bonjour.
Ça va, Jason?
Très bien.
Andy Jacques à la console, technicien expert et aussi bon pote, joueur de Magic, tranquillement, pas vite, il revient dans le loop. Voilà, cette semaine, on s'est dit qu'on était pour s'ouvrir un petit peu. Au son de Mega Man 2 en background, on veut Mega Man 2, hein, je pense que tout le monde connaît le jeu, Capcom, une des plus laides pochettes de l'histoire. On veut vous parler cette semaine de quelques-uns de nos beaux souvenirs qu'on a eu en jouant à Magic. Peut-être toi, Jason, on va commencer par toi, je te regarde regarder l'endroit précieux où le mur devient le plafond, en fouillant ta tête et ton cœur pour nous sortir un souvenir de Magic.
Personne n'est pas celle-là.
T'as gagné 3 boîtes de booster au Grand Prix de Montréal cet automne.
Ouais, mais j'en ai parlé dans le premier épisode.
C'est ça. Ben, si tu veux, je peux commencer comme ça.
Non, on commence par Andy.
Comme ça, tu vas pouvoir avoir comme un référent. Moi, j'ai joué fin secondaire, début cégep, avec ma bande d'amis. Fait qu'on était 5, vraiment très, très soudés, là, on se voyait. Dont un de mes meilleurs amis, Nanou, que c'est son surnom, qu'on jouait, on se voyait à tous les jours, on jouait aux cartes et on a commencé à jouer à Magic. Et là, c'était dans le temps de, justement, les Ice Age, Fallen Empire, Chronicle. Fait qu'on est dans ce, les sapro-lignes et tout ça, là. Et mon ami, je suis désolé s'il écoute probablement pas, mais c'était quelqu'un qui était très soupaulé. Il doit l'être encore un peu. Donc, il était très fâché quand il se faisait tuer ou quand il se faisait planter. Et moi, voulant pas le décevoir, généralement, j'éternisais une game. Et on avait des decks de 200-304.
No boy,
une game pouvait durer des fois 3 heures avec la table. Il y avait des créatures tout le long de la table. Ça n'avait aucun sens. On arrivait jusqu'à la fin du deck. Là, c'était des all-in. Ouais. Fait que là, on attaquait avec genre des 60 créatures. Genre.
Oh, oui,
ça fait aucun sens. Là, ça se terminait. Tu sais, de manière ou d'une autre, il faut que quelqu'un gagne.
Ça prend une fin.
Ça prend une fin. Fait que ça se déterminait avec. Ça se déterminait à grand coup.
Est-ce que tu as un souvenir d'une crise particulière que ça?
Ben, généralement, il garoche ses cartes. Là,
fait que
cool. Là, on joue avec des decks de 200 cartes. Je sais pas si tu le sais, mais c'est.
Ça en fait beaucoup à ramasser. C'est plus que 52 ramasser.
Ça n'a aucun sens. Fait que, c'est un de mes bons souvenirs.
Moi aussi, j'en ai pas mal de cette époque-là quand on jouait au cégep dans la cafétéria. Un des premiers decks que je me suis fait, c'est un deck avec des Prodigal Sorcerer et des Zuran Spellcaster.
Ouais.
C'est deux magiciens qui ont bleu, mono bleu, deux colorless, un bleu, une créature, 1-1. Tu le tapes et tu fais un dommage où tu veux. Donc, souvent, j'en avais 3, 4, 5 en jeu. Fait que je pouvais faire plusieurs fois un dommage. Je me sentais fort. Avant mon tour était pas mal occupé. Mais c'est pas le souvenir duquel je veux parler en particulier. Je pense que un des plus beaux souvenirs de Magic que j'ai de toute ma vie, tu t'en souviens certainement, nos grands-parents côté avaient un chalet au Témiscamingue sur le bord d'un lac qu'on appelait le lac Clair, parce qu'on on pouvait boire l'eau dans le lac. C'est un lac de météores. Et voilà, parce que vous ferez vos recherches sur les lacs de météores. Mais à cet endroit-là, moi, tournant cégep, là, je devais avoir 16-17 ans, je demandais à mes grands-parents de nous prêter le chalet. Et j'invitais plein de mes amis de gars. On se ramassait là, on était 14-15 personnes de 16-17 ans. Et on a joué à un moment donné une game d'empereurs qu'on avait 3 empereurs avec chacun 2 bodyguards. Et on a joué une game d'empereurs à 9 joueurs qui a duré, ça a duré toute la journée. On a commencé à 8h le matin. Et ça s'est terminé à 2h du matin, le lendemain, ça a été une game épique.
Le format d'empereur pour nos auditeurs, parce que c'est un peu, c'est très dommage parce que c'est un des meilleurs formats.
Ah oui,
ça,
oui.
Ça s'est un peu disparu des habitudes des Magic. Donc, quand tu joues à l'empereur, généralement c'est à 6 joueurs, mais tu peux faire plus, bien sûr. C'est en équipe de 3, généralement. T'as un des joueurs qui fait l'empereur, puis t'as ses 2 bodyguards.
C'est ça.
Donc, chacun joue son deck. L'empereur est toujours entre les 2 autres joueurs. Pour attaquer l'empereur, le but c'est de tuer l'empereur de l'autre bord, mais pour ça, il faut que tu passes à travers le bodyguard. c'est soit celui par la gauche de la table ou de la droite de la table.
Et voilà.
Et ça fait un des formats les plus stratégiques de Magic.
Ah, c'est sûr. Et j'aime aussi la notion de rajouter une portée. Tu sais, que si tu fais un enchantement qui affecte tout,
oui.
Ben ça affecte à deux joueurs à ta gauche ou à deux joueurs à ta droite. Fait que si tu joues à 6, ben il y a un joueur qui n'est pas affecté par les affaires que tu fais à toutes. Ça j'aimais beaucoup.
Commander a pas mal pris toute la place maintenant dans le
puis j'aime pas ça, Commander.
Casual, moi, je suis un joueur de Commander.
Ça fait pas partie de mes
Mais je suis un militant du retour de l'Empereur. Donc, j'espère que les gens, en écoutant notre podcast...
Voilà, essayez ça, une game d'Empereur, une fois de temps en temps. C'était mon beau souvenir, moi. On jouait au printemps tranquille... La journée au complet dans un beau chalet au Témiscamingue avec les amis que je salue s'il y en a qui écoutent là. Jason?
Ben écoute, moi, il y a un moment donné, c'est quand j'ai trouvé le magasin de Magic. Moi, j'habite à Ottawa, donc ça s'appelle le Game Breaker. On va faire une plug ici. Gratuit de commandite. Le Game Breaker, c'est un magasin de cartes à Ottawa, vous googlerez, qui est tenu par un gars qui s'appelle Hans, d'origine chinoise, qui tient ce magasin de cartes-là depuis...
Je l'avais pas vu venir, ça.
Ouais, moi non plus, ça m'a l'air d'un Allemand.
C'est Hans Lee, de son vrai nom.
Okay, ouais.
Ce gars-là, il tient ce magasin de cartes de hockey, à la base.
C'est tout souvent ça.
Il tient ça depuis 1993. Puis, il fait des drafts plusieurs fois par semaine, notamment le mardi.
C'est cool.
Puis, Hans est toujours à son magasin, toujours prêt à jouer une game de draft. Puis à un moment donné, on s'était pointé là. On avait commencé, on a fait un draft à 6 heures.
Okay.
Tous les joueurs. Là, Hans, il a dit... depuis ce temps-là, depuis cette fois-là, il fait tout le temps. Là, après ça, il dit, ah, on en fait un autre à 9. C'est après le premier draft. Fait qu'on en a fait un draft à 9. Puis là, on était vraiment dedans. On en a fait à minuit. Puis après ça, écoute, le soleil s'est levé.
Oh boy, hein? J'ai fait gardé son magasin ouvert pour
12
jouer des drafts
toute de draft.
Nuit.
OK. Puis ça, c'était la première fois, quoi. C'est une couple d'années. Là. Puis depuis ce temps-là, c'est devenu... Juste pour vous donner une idée à quel point le gars est intense, quand il fait les pre-release, c'est quand un set sort, il y a... tous les magasins qui vendent des cartes de Magic sont obligés de faire des pre-release.
Ouais.
C'est un format seal où on te donne 6 paquets du nouveau set. Tu fais un
deck à partir
de
ça.
Puis là, c'est un tournoi. Et généralement, dans chaque magasin, tu vas trouver une trentaine, quarantaine de joueurs. Hans, il commence le vendredi soir. Puis il se rend jusqu'au dimanche soir. Et il dort le matin.
Okay, ouais.
Il y a un draft à 11h, un draft à 7h. Puis tu sais, comme.
Lui, il aime ça, là.
Oh, il dit qu'il est addict à Magic.
Et voilà.
Puis il fait aussi le Seal Challenge. C'est que quand tu arrives dans son magasin, tu peux le challenger sur un seal challenge. Dans le fond, faut que je sais plus s'il le fait, là, mais je l'ai fait une couple de fois. Tu payes 30$ de booster pour les deux côtés. Et donc c'est un duel, c'est un 3-2-2. Mm-hmm. Si tu gagnes, tu gardes les cartes. Si Hans gagne, il garde tes cartes.
Mais lui, tu payes 30$.
Ouais,
mais lui ici, il se prend des boosters à lui. Là.
Mais c'est des boosters à lui.
T'sais, ok, je comprends. Ok, fait qu'il est all-in, lui.
Il est all-in. Puis là, il est très bon, Hans, puis on a une théorie de
conspiration. Ben, probablement. Là,
ouais. Généralement, c'est le tournoi, vu qu'il finit dans les top 3, c'est que ça lui permet moins d'années de prize. Je m'amuse à dire ça, mais je pense pas que c'est vrai. Là, mais,
ben, non, il y a juste à pas être bon. Hein.
Mais non, mais il est vraiment bon.
Ben, voilà.
Ben, c'est pour ça qu'il fait ça aussi.
Ouais. Très bon souvenir. Merci beaucoup, Jason. D'ailleurs, on va écouter un petit jingle de notre ami Bone. Et ensuite, je vous présente ma carte de la semaine. Donc, cette semaine, la carte que j'ai choisie, c'est pas quelque chose que je joue, mais c'est quelque chose qui m'a fasciné, que j'ai découvert dans le nouveau bloc Guilds of Ravnica. Ça s'appelle Healer's Hawk. Un blanc seulement pour faire un 1-1 Flying Lifelink.
Shit.
Tu sais, moi, j'ai un deck d'oiseaux que j'utilise pour montrer aux nouveaux comment jouer. Toutes les monstres sont flying, ça enlève une dynamique qui peut être compliquée pour d'autres. C'est quelque chose d'assez pratique. Healer's Hawk, c'est quelque chose, à mon sens, qui n'aurait jamais existé avant très récemment dans le jeu. Un flying, déjà, souvent, c'était comme ça coûtait un blanc, un colorless pour avoir un 1-1 flying.
Ouais.
Et là, tu rajoutes à ça Lifelink. Ça me rappelle que El Ajage, ça a été la première créature Lifelink du jeu. C'était un colorless, deux noirs dans le temps de Arabian Nights et de Chronicles. Une créature 1-1 lifelink qui coûtait 3. Oui. Et là, on a un Flying Lifelink. Le jeu a évolué en sapristi.
C'est un excellent exemple de ce que j'appelle le power creep, là, la course aux armements.
Ben oui.
Au sein de Magic, qui n'ont pas le choix de faire des trucs de plus en plus forts. Parce que là, tu sais, c'est un pour un Flying Lifelink. Là, tu rajoutes comme Frenzy Rage dans le même set que tu drafts, qui est un enchantement que j'en ai parlé dans l'épisode, plus 2, plus 2.
Ouais.
Et là, au tour 2, t'as une 3-3.
3-3
Flying Lifelink. Ça swing, là.
Ouais,
parce que toi, tu montes, toi, tes vies montent pendant que l'autre, ça descend.
Je me suis fait faire ça. Ah. La dernière fois, mais j'ai gagné pareil, mais je me suis fait faire ça.
Donc, c'était ça pour la carte de la semaine. Merci beaucoup à Bone pour le Jingo. Là-dessus, mon cher Jason, un gros bloc, là, on va jaser de ça.
Oui.
Là, tu vas nous parler, parce que c'est toi qui s'y connais le plus,
la naissance
de l'histoire de la création du jeu.
Oui, c'est une histoire qui est quand même fascinante pour tous ceux qui s'intéressent aux les histoires de start-up.
Ouais.
Les Anglais, ils ont une expression qui veut dire « lightning in a bottle
ouais. ».
C'est-à-dire, c'est que ton idée arrive à un moment de l'histoire. Tu sais, « Smell like Teen Spirit », c'est un « lightning in a bottle ». C'était dans un creux de l'histoire musicale, ils ont fait cette chanson-là. Pouf,
Au bon moment, au bon temps.
Magic, c'est exactement ça. L'apparition de Magic, c'est dans un moment où les jeux de rôle s'en allaient un peu chez le diable, parce que c'était comme compétitionné par l'apparition des jeux vidéo.
C'était beaucoup littéralement chez le diable aussi, parce que ce qui a pas aidé les jeux de rôle, ça a beaucoup été que si tu joues à Donjons et Dragons, tu vas vendre ton arme à Satan.
Ouais.
Moi, je me souviens que ma mère est venue me voir quand j'ai commencé à jouer à D&D, elle a dit « Ouais, moi, ça me dérange pas que tu joues à ça. » Il y en a d'autres que ça le dérange, mais moi, je trouve ça correct, je trouve ça beau.
Ouais.
J'ai fait, ben, OK.
Ouais, on fait du jeu de rôle improvisé.
Mes parents, j'arrivais pas à réussir à leur faire comprendre, comme, parce que je jouais beaucoup à Donjons Dragon, j'arrivais pas à leur faire comprendre comment ça fonctionnait. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, puis vu que je jouais à Magic en même temps, mais quand mes amis venaient chez nous jouer à Donjon, mais je disais à mes parents qu'on jouait à Magic.
Ah, ouais. Voilà.
Parce que Magic, ils comprenaient, ça ressemble au
quoi. Wow, hein.
Moi, j'ai lu dans une entrevue de Richard Garfield, qui est le créateur du jeu, qu'ils ont inventé le jeu pour avoir de quoi à faire en attendant les autres joueurs de Donjons et Dragons.
Ah, exactement, c'est vrai, là que j'arrive.
C'est vrai, je me suis rappelé de cette histoire-là.
Merci de cette passe.
Oui, c'est vrai.
Richard Garfield, c'est un étudiant au doctorat en mathématiques à l'Université de Pennsylvanie. Puis, lui, à la base, c'était pas Magic. Ce qu'il voulait faire, c'était des board games. Des board games style Monopoly avec des pièces en bois, en métal, tout le tralala. Il y avait un concept qui s'appelait Robo Rally, qui était un board game qui finalement a été
publié. Ils l'ont sorti.
Oui, non, mais tu vas voir. Mais c'est pas... À la base, Richard Garfield voulait publier Robo Rally.
Okay.
Puis, tu avais une compagnie à Seattle, sur la côte ouest, qui était dans le sous-sol des parents de Peter Atkinson. Peter Atkinson était le créateur de Wizard of the Coast.
Okay.
Puis Wizard of the Coast, à la base, c'était une start-up, là, c'est ça, dans le sous-sol de chez ses parents, pour faire des livres de jeux de rôle.
Okay.
Puis Peter Atkinson avait un lien avec un imprimeur en Belgique qui imprimait ses livres, qui s'appelait Cartamundi.
Ça, c'est avant Internet. Là, tu pouvais pas...
Là, on est en 1992.
C'est ça, OK.
Fait que là, Richard Garfield, notre mathématicien, il se promène de compagnie en compagnie. Il essaie de trouver une compagnie qui va vouloir publier Robo Rally. Puis, il va voir Peter Atkinson. Il explique Robo Rally. Robo Rally, là, c'est vraiment un board game classique. Là, style, pensez genre Monopoly ou tous les board games qu'on joue maintenant, là, que l'on entend, whatever. Peter Atkinson, il dit, ben... Désolé, mais comme ma compagnie n'a pas accès à des moyens de production pour faire des figurines, des trucs comme ça. Sauf que mon imprimeur est capable de faire des affaires en carton. Fait que si c'est un jeu de cartes, ça serait bien. Moi, Wizard of the Coast, ce que je trouve qu'il serait bien de faire, c'est un jeu qui joue... Quand tu joues à Donjons Dragons, des fois, il y a des pauses. Mais ça prendrait un jeu rapide que tu joues... En deux games de dungeon, là, dans une pause.
C'est fou, là. Il y avait le médium, puis il y avait le public cible.
Mais il n'y avait pas quoi l'idée. Faire. Il n'y avait pas l'idée.
Là, Richard Garfield a fait comme... Je te reviens. Fait que là, Richard Garfield, il est allé voir deux games. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Tu as ce qui rétroactivement a été appelé les Eastern Playtesters, c'est-à-dire ses collègues à l'Université de Pennsylvanie. Il est allé voir eux autres. Puis il est allé voir, Richard Garfield était un gros joueur de bridge.
Oh!
Fait qu'il est allé voir ses joueurs de bridge. Il jouait toutes les semaines au bridge. Fait que c'est deux gangs séparés, là. On suit, là. Vous allez voir, ça va être important tantôt. Les Eastern Playtesters, puis les joueurs de bridge, de Richard Garfield. Puis ensemble, séparément, ces gens-là ont conçu Magic de Gathering tel qu'on le connaît. C'est-à-dire un jeu de cartes. Le concept, c'était... Le concept de base, c'était que t'achètes le produit Magic de Gathering.
C'est que t'achètes un deck, puis c'est ça.
Tu fais ton deck, mais tu sais pas qu'est-ce que...
L'autre va avoir.
Tu sais, puis c'est des duels de magiciens.
C'est un petit peu le bridge,
Chaque couleur a ses effets différents.
Ouais.
Puis t'as tout un aspect aussi de collection, tu sais.
Et de pérennité, parce que tu peux tout le temps garder les cartes de la série d'avant et t'en servir dans le futur.
Ouais.
Moi, je joue encore avec des cartes de Homeland, par exemple.
Et de Fallen Empire.
Lâchez-la!
Fait que Richard Garfield, il a conçu ce jeu-là, puis il testait ça à l'université de Pennsylvanie. Au début, c'était des petites cartes. Les cartes étaient, leurs cartes de test étaient beaucoup plus petites que les cartes Magic aujourd'hui. Mais c'était les mêmes mécaniques qu'il y a dans Alpha.
Il devait pas avoir des dessins.
Comme le prodigue. Ça existe dans le bridge, le concept de taper ta carte pour montrer que tu utilises.
Non, c'est vraiment, ça vient vraiment de Magic. C'est la mécanique de base pour dire, tu sais, c'est tu mets tes ressources en jeu qui permettent de jouer.
Tes ressources sont utilisées, elles sont tapées.
Mm. Il est revenu à Peter Atkinson avec cette idée-là. Atkinson a été emballé. Fait que là, il a pris tout son cash, il a fait comme un genre de all-in. Puis il paraît que on est à l'année 92.
Mm.
Puis pendant l'hiver, le printemps,
ils ont pas mangé,
93, Peter Atkinson il a mis toute la première batch, l'enfant Alpha, dans sa valise de char.
Très simple.
Puis il est parti, tu sais, Seattle, ça a commencé vraiment sur la côte ouest. Il allait de magasin en magasin. Il rentrait dans un magasin avec ses cartes de Magic, c'était les starters.
Mm.
Puis là, il expliquait au gars du magasin, « Hey, regarde ce jeu-là. » Puis tout de suite, là, ça s'est emballé. Ce qui a fait vraiment décoller, c'est qu'il a réussi à avoir une table à Origin. Origin, qui est une genre de convention de geek, surtout sur les jeux de rôle.
OK.
Puis c'est vraiment à Origin, et ça a été remarqué par des journalistes, c'est là que le bouche-à-oreille a commencé.
Okay.
Quand Richard Garfield a créé Magic Alpha, dans le fond, le set qu'on connaît maintenant,
le premier bloc d'Alpha,
les premières
Ancestral Recall.
Qui a Wall of Wood notamment, le Black Lotus, les Mox, Lord of the Pit, toutes ces cartes-là.
Cette balise vaudrait des millions aujourd'hui.
Quand il a créé ce set-là, il pensait que that's it. Ça va être Magic.
C'est ça.
Ouais, non, c'est ça.
Il
n'y
aura jamais rien d'autre.
Au pire, on en réimprimera d'autres.
C'est comme trop loin pour eux dans l'avenir.
Ouais. Ben oui.
Ben même la version bêta, c'était juste de la révisité.
Pourquoi ils ont fait le bêta. Ouais. Alpha s'est vendu en 3 mois, il n'en restait plus. Ça, c'était juste la côte ouest.
OK.
Puis c'était le frenzy. Tous les magasins qui avaient acheté les premières boîtes rappelaient Wizards of the Coast. Hey!
Tu peux en faire d'autres.
Tu peux en faire d'autres. C'est un gros vendeur. Fait que c'est là qu'ils ont fait bêta. Beta, c'est tout vendu sold out en 2 semaines.
Très hein.
Ça, c'est on est au août 93, septembre. Puis là, c'est là qu'il a fait comme lightning in a bottle.
Je tiens
quelque chose. Puis ça s'est emballé, puis là, ça s'est répandu tout de suite à travers l'Amérique du Nord. Puis là, c'est là qu'on. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Là, tout de suite, Richard Garfield a fait comme. Peter Atkinson a dit Richard Garfield, ça nous prend des nouvelles cartes.
Ouais.
Puis là, au début, ce qu'il pensait faire, c'est que chaque édition aurait un dos différent.
Mauvaise idée.
Fait que là, tout ça, on fait comme, OK, comme ça, les gens vont comprendre que c'est un nouveau set, c'est nouveau,
ouais,
tu sais.
Ça,
c'est Richard Garfield de faire ça. Puis là, il y a quelqu'un dans le staff qui a dit, pourquoi pas comme chaque set, ça, c'est vraiment le... Tu overdrive ton lightning in a bottle. C'est pourquoi pas chaque set a le même dos tout le temps. Fait que, tu sais, tu peux tout le temps, chaque fois qu'il y a un set qui sort, tu réutilises le même.
Tu peux les rajouter dans ton deck.
Puis ça a vraiment fait comme le déclic, là, tout l'aspect, oh, OK. Puis là, c'est là qu'ils ont,
inventé le symbole classique, là, des 5 couleurs.
Puis là, il n'y avait plus de cartes. Beta, t'es sold out. Ils ont fait, ce qui est devenu... Limited.
Limited, ouais.
Limited, c'est juste avant Revised.
C'est vrai.
Donc, Limited, ça s'est sorti pendant l'automne. Encore là, ils ont manqué, ça a été sold out. Là, puis là, c'est là que Wizard of the Coast disait à Richard Garfield, hey, ça nous prend des nouveaux sets. Là, c'est ma partie la plus intéressante, je trouve, dans l'histoire de Magic.
OK, bah oui, parce que là, on rajoute d'autres affaires que les vieilles cartes.
Là, Richard Garfield, OK, fine. Dans le fond, je vais faire des nouvelles cartes. Parce que tout ce que je viens de décrire là, c'était tout le temps, ça partait tout le temps des premières.
C'est ça, c'était encore des Lord of the Pit, encore des Wall of Fate.
Ouais,
fait que là, il a fait, OK, fine. Fait qu'il a trouvé de Neil Gaiman un comic book qui s'appelle Arabian Nights.
OK.
Neil Gaiman.
Ouais, ceux qui même. Suivent les comic books savent c'est quoi. C'est un... Dans le fond, c'est les contes des mille et une nuits qu'on connaît toutes. Je vais faire une histoire rapidement. Mille et une nuits, le sultan, il marie Sherazade, il est tanné d'elle, il veut la tuer. Fait que Sherazade a dit « Ah, je vais te conter chaque soir une nouvelle histoire, mais je te dirai pas le punch.
Ouais. » Elle finit jamais le punch pour
vivre. Comme ça, elle vit une journée de plus. Fait que c'est les mille et une nuits, elle compte les mille et une histoires. Fait que, tu sais, c'est un classique de la littérature arabe que je recommande. Ça, en fait, ça, revisiter ça m'a incité à le relire. Ouais. Ça a très bien vieilli.
La beauté de ça, c'est qu'il a dit le punch le lendemain. Oui. Mais j'ai une autre histoire.
Fait que pour y aller très simple, Richard Garfield, il a pris ça. Puis il a fait un set de Magic avec.
Fait que la première expansion qui n'est pas un core set, c'est
Arabian Nights.
Puis à ce moment-là, Magic n'a pas encore son identité propre. Tu sais, parce que dans le fond, il a pris Arabian Nights, que tout le monde connaît.
Ouais, il n'y avait pas de lien entre le Lord of the Pit, puis avec.
Ça se passe sur la Terre, tu sais, t'as la carte. Juzamjin. T'as une carte qui s'appelle Bagdad dans
le jeu. Ouais, c'est ça, ouais.
Puis t'as Stone Throwing Devil, qui est une carte qu'ils ont d'ailleurs enlevée parce qu'il y a des gens qui disaient que c'était raciste envers les Palestiniens.
Ouais.
Stone Throwing Devil.
Ah, misère.
Non, mais quand même, tu regardes la carte, puis ça a très mal vieilli.
Ouais.
Bref, là, il a fait ça. Ah oui, j'ai oublié un aspect important pour les artistes, parce que Magic, c'est aussi un jeu d'art.
Ça doit être un des plus gros employeurs d'artistes visuels.
Fait Peter Atkinson, c'est pas Richard Garfield, puis ses cartes de testing, mettaient n'importe quoi, les genres du Superman, de paire de bas.
Ouais, ouais.
Peter Atkinson est allé voir une école, j'ai oublié le nom, là, au Grand Prix de Montréal. L'autre jour, j'avais parlé à Mark Tiddin, qui était un des premiers artistes de Magic. C'est une école d'artistes privée à Seattle. Ils sont allés voir cette gang-là. Il y a un gars qui s'appelait Jasper Meaford.
Qu'on voit encore.
Ouais, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup des artistes de l'époque comme Mark Tiddin qui font encore des cartes de nos jours. C'était comme une genre de clique, là. Un peu comme la gang à Andy Warhol. Là.
Ouais.
C'est le genre de clique d'artistes qui se connaissaient toutes, là. Puis là, ils sont passés le mot. Il y avait Amy Weber, elle a fait les blogs un peu fucky.
Ouais.
Donc, ils se sont tous parlé entre eux, puis c'est eux qui ont défini, en fait, pas mal le look.
Des premières cartes.
Celui qui a fait le Lightning Ball, c'est aussi lui qui a fait les. C'est Chris Rand, je pense. Je blasse le nom, là, mais en tout cas, lui, c'est lui qui a designé le logo des symboles de mana.
OK. Wow.
Et l'endo de la carte.
Ah, voilà.
Ce monsieur-là est décédé, malheureusement, en 2015.
Pourquoi?
Mais ça a été marquant. T'sais, c'est vraiment l'identité de Magic, le logo, le dos cap, ça, c'est lui qui l'a fait.
Puis
il a tout le temps continué à faire des cartes.
Ouais.
Fait que bref, ça, c'est l'aspect art. Puis Richard Garfield a demandé à ses Eastern Coast Playtesters, il a dit, vous autres, faites-moi des sets de Magic.
On est allé voir des mathématiciens pour faire des sets de Magic, c'est une bonne idée.
C'est playtester,
ben oui.
Mais c'était des gens qui jouent à Donjons & Dragons, des trucs comme ça.
Ben oui.
Fait que là, les Eastern Playtesters, ils ont starté, ils ont fait Antiquities.
Okay.
Un set basé sur les artefacts.
Ah ouais.
Puis là, c'est là qu'ils ont pris, dans Alpha, il y avait les lunettes d'Urza, puis l'angle de Mishra. Ils ont dit, ça c'est des frères magiciens, sont en guerre. Puis ça, c'est l'histoire de notre set. Fait que Antiquity... Ça
a été le premier set avec une histoire
le premier
originale.
Set... Exactement. Fait
qu'il y avait des protagonistes.
Avec des protagonistes.
On n'était plus vraiment des protagonistes. On fait partie d'une histoire qui existe. Là.
Fait que c'est là que l'histoire de Magic commence.
Ouais.
L'histoire de Fluff, là, les légendes et ça. Fait que là, dans Antiquity, il y a eu une guerre dans le passé, dans le passé de Dominaria, qui est le premier plan de Magic. Puis les magiciens, les joueurs...
Dominaria, c'est une planète.
Ouais, c'est un plan. Puis ils découvrent... C'est les magiciens, dans le fond, les joueurs. Ils fouillent les ruines à la recherche de façon de péter ton adversaire. Ils cherchent des antiquités, les artefacts. C'est pour ça que chaque carte du set de Antiquities, il n'y a aucune carte qui n'a pas rapport avec des artefacts. Fait que la majorité des cartes sont des artefacts, mais aussi dans chaque couleur...
Ouais, t'as les petits démons qui transforment les artefacts en créatures.
Exactement.
C'est
dans ce set-là que t'as les puissantes Urza Power Mine, Urza Mine, Urza Power Plant, Urza Tower, qui sont encore dans le deck le plus fort, comme je l'avais mentionné, dans Modern.
La Millstone vient d'Antiquities.
La Millstone vient d'Antiquities. Là, ces gens-là, ils ont fait Antiquities. Là, ils ont dit, ah ben écoute, tu sais, ça va bien, on va continuer ça. Puis là, ils ont commencé à travailler sur, tu sais, t'as une carte dans Antiquity, c'est le Golgothian Silex, qui est sur notre logo de notre show.
Oui.
Si vous allez sur notre page Facebook, c'est un bol avec les logos de... Fait que tu sais, t'as une carte dans Antiquity, c'est un artefact qui coûte 4, tu la sacrifies, puis ça détruit toutes les cartes du set d'Antiquities. Dans l'histoire, c'est qu'à la fin de la guerre entre les deux Urza et Mishra, ben à un moment donné, il y en a qui utilisent ça, puis là, il y a un gros cataclysme. Et là commence. Qu'est-ce qui arrive après?
Je sais pas. Le Ice Age.
Le Ice Age, parce que ben ça fait oui. un hiver nucléaire.
Ben oui.
Mais là, c'est... moi, c'est ça que je trouve que
c'est. Il a tout pété avec un vase.
Ouais, les Eastern Playtesters, là, sont dans leur trip, tu sais, ils ont fait. Fait que là, mais là, l'hiver arrive pas tout de suite. Ça va de pire en pire. Fait que là, ils ont fait The Dark, c'est la suite d'Antiquities. Ouais. Là, ils ont commencé à explorer. Là, dans le fond, c'est là qu'ils ont commencé à faire avec les couleurs. Ils ont commencé à les définir un peu plus.
Ouais. Okay.
Puis, l'histoire dans The Dark, c'est il y a de moins en moins de ressources. Il fait de plus en plus froid. Les couleurs se virent tout un peu un contre l'autre. Puis, ils ont fait aussi, dans la même lignée, Fallen Empire.
Wow!
Qui est les empires tombés.
Ouais.
Fallen Empire, c'est le premier set de Magic, c'est les tribus.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as les gobelins pour le rouge, ouais.
les soldats pour le blanc.
Les merfolk pour le bleu. Ouais. Les elfes puis les talides dans le vert, ouais, les trolls, les zombies dans le noir. Donc c'est ça. Puis là t'as des guerres civiles au sein.
Il y avait les soldats, je pense.
Les Icassians.
Ouais.
Puis chaque couleur comme sa guerre civile à l'époque. Puis là l'enfant c'est le puis là éventuellement il arrive à Ice Age qui est Dominaria se fait couvert de glace. Ice Age est le premier set qui a été designé pour jouer en draft. C'est
ok.
95. Il a pas été entièrement pensé pour ça, mais c'est le premier set qui a sorti pour Draft. Au même moment, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Richard Garfield avait beaucoup d'amis, sa gang de bridge, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là?
Il jouait au bridge?
Ben non, ils ont dit nous aussi on va en faire des sets.
Oh shit.
Ok, parce que là, il y a la gang de la côte est qui en font, on est capable nous autres aussi.
Oui.
Ah, cute. Fait que là, c'est pour ça que ça a sorti.
Puis là, les gens de bridge, les amis de Peter Atkinson qui jouait à Donjon Dragon avec lui,
ils
se disent hey, si on veut participer à ça. Fait que la gang de, qui jouait avec Peter Atkinson, ça c'est le patron de Wizard of the Coast, qui jouait à Donjon Dragon avec lui, eux ce qu'ils ont fait c'est vraiment simple, ils ont pris leur game de donjon puis ils ont fait Légende.
Et voilà, avec les dragons, les Elder Dragons.
Les Elder Dragons, en fait ils ont pris les personnages de leur game de donjon, les NPC, tout ça, puis ils ont fait...
Cute.
Puis ce qu'ils ont amené comme la nouveauté dans Magic, c'est les cartes or,
ouais, les plusieurs duos, couleurs. C'est ça.
Ouais.
Ça a changé la game.
Ouais, ça a changé la game, puis la mécanique légendaire.
Ouais.
Là, ça c'est plus ça, mais dans les règles de l'époque, quand tu sortais Nicole Bolas, qui était le dragon légendaire...
Ça détruisait un autre Nicole Bolas.
Il pouvait juste en avoir un sur la table.
Ouais,
il pouvait juste en avoir un. Puis il y avait des Enchant, des Legendary Land aussi.
Ouais.
Donc...
Puis le premier, ouais. le dernier Legend pète le plus vieux. Puis là, c'est ce qui faisait que les clones étaient forts aussi à l'époque. Un clone, ouais. Trois colorless, un bleu, tu le manges et il devient une copie d'un autre
ça,
créature.
Ça pétait,
ce qui fait que si tu copies un Legendary, ben, il devient légendaire lui aussi, donc il pète le premier.
Puis là, on arrive au set préféré de Tommy.
Homeland.
Là, tu sais, en 95, le Wizard of the Coast sort de la cave de chez ses parents. Puis là,
ouais,
ça commence,
big, là,
ça devient big. Là,
tout le monde a commencé à jouer en 95. Hein. C'est en 95 tout le monde a joué.
Oui, puis là, il commence à former une équipe. Puis là, sa gang qui est en charge du service à la clientèle, ils font comme, ben nous autres aussi, on peut en faire un set.
Oh! Là, ils ont fait Homeland.
Ils ont fait Homeland. Puis ce qu'ils ont pris dans le fond Homeland, c'est qu'ils ont dit, bon, c'est quoi les cartes qui sont le plus jouées présentement? Sengir Vampire dans le noir, Sarangel dans le blanc.
Ouais.
Sarangel, tu sais, 3 colorless, 2 blancs.
Vigilant.
Ça fait un ange 4-4.
Ça avait aucun rapport de s'appeler Sengir. Ça vient de nulle part.
Ouais, ça, c'est les noms qu'ils avaient trouvé quand ils avaient créé Alpha. C'est comme Urza puis Mishra. Richard Garfield a fait un voyage en Inde dans les années 80.
Ben, c'est deux étoiles, Urza, Mishra.
Non, c'est vraiment c'est des noms propres en Inde.
Okay.
Puis il trouvait que ça fitait bien dans son setting. Fait que ça vient vraiment de nulle part. Fait que là, t'as cette gang-là qui ont fait Homeland. Mais vu qu'ils connaissaient mal Magic, ils l'ont pas assez bien testé. C'est un des sets les plus réputés comme un des plus poches.
Ben, c'est le plus poche. Ouais. Il n'y a pas un des. Là. C'est le plus
le,
poche.
Le plus poche.
Il n'y a aucune carte. Moi, il y en a une carte que je joue dedans. C'est la petite fée, un colorless, un bleu qui est Flying Protection from Red. Puisque j'ai un deck qui rend tout rouge.
C'est un Remora, c'est. Qui est une créature bleue. Chaque fois que quelqu'un joue un spell rouge, je pense, tu piges une carte.
Non, ça c'est le Mystic Remora.
Ça vient de
Ice Age.
C'est de Ice Age.
C'est un enchantement.
Ice Age, ils ont inventé toutes les. Ouais, tout ce qui est comme les Walking.
C'est le premier gros set. Qui ont essayé de rebooter Alpha dans le fond. Parce que toutes les autres sets que j'ai parlé étaient un peu comme une extension de.
C'était plus autres. Comme des 100 cartes.
Mais c'est là qu'ils ont essayé de plugger le Snow Blabla.
Là, la gang de Bridge.
Ça a duré
la gang de Bridge que je parlais, vous remarquez qu'ils n'ont pas encore publié de set. On est rendu à 95.
Ah, vrai, ouais. OK.
Puis eux, ils ont été intelligents. Ils ont pris leur temps. Puis ils ont fait ça s'appelait une ménagerie à la base.
OK.
Ils ont dit. L'avenir, c'est dans le draft. le méthode, tu sais, les tournois, ça va être... C'est comme ça qu'on va vendre des boosters, tu sais. Ménagerie, c'est le premier set qui a été fait en passant des drafts.
Ouais.
C'est pour ça qu'il a été long à faire. Ça a pris 2 ans.
C'est Ice Age, ça.
Non,
non
c'est
ménage,
Mirage.
Ouais, Mirage, okay. Ouais.
Mirage qui est sorti à l'automne 96. Mm. Et sa suite qui est Vision.
Ouais.
Ouais.
C'est le premier set qui a vraiment été pensé en faisant un format de draft.
Okay.
Ça a pris 2 ans à faire. Puis c'est devenu en fait le template. Les gens, les joueurs de bridge, là, ces gens-là que je parlais, sont devenus en fait les premiers vrais employés permanents de Magic. Ils sont encore là de nos jours.
Okay.
C'est vraiment le modèle que toutes les sets ont suivi. À partir de là, toutes les sets, ça a tout en pris 2 ans à faire.
OK.
Puis, penser en format de faire des drafts. C'est comme ça que tu vends des boosters.
Ouais. Puis c'est le fun.
Puis c'est
fun. C'est une méthode de fun.
Le draft, tout le monde est égal autour de la table parce que tout le monde a eu 3 boosters.
Et là, on n'est plus dans la cave de chez les parents de Patrick Machin.
Non, on arrive à la fin, en fait, de ma création Magic. C'est vraiment à partir de ce moment-là. Après ça, ils ont sorti Alliance.
Ouais.
Alliance, c'est la suite de l'âge glaciaire.
Il y a la 8e édition aussi, là, à travers tout ça. La 7e, je veux dire.
Mais non, on est rendu à 4e, en fait. 4e édition, c'est un melting pot de toutes les sets que je viens de parler.
Ouais,
Legend, Arabian Nights, ça. A été mis ensemble pour faire 4e édition.
Ben, il y avait Chronicles aussi qui sortait les meilleurs de ces
années. Mais ça,
Chronicles est sorti après 4e édition. Okay. 4e édition, c'est 95. 5e édition, là, ils prennent du Ice Age.
Ouais,
c'est vraiment ça. Là, ils font les core sets. Mais comme j'ai dit, c'est là que vraiment Magic se professionnalise.
Ouais.
Alliance, puis 5e édition, ça a été fait à l'intérieur de Wizard of the Coast. C'est plus comme on va chercher nos amis.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment là que Magic se corporatise.
Ouais.
OK. Puis à ce moment-là, ils ont tellement fait de cash que Peter Atkinson, que j'avais parlé tantôt, qui était dans le sous-sol de chez ses parents avec sa compagnie de faire des jeux de rôle,
ouais.
En 96-97, il accomplit son rêve de petit gars. Qu'est-ce qu'il fait, Peter Atkinson?
Il a acheté TSR.
Ouais. TSR en premier, ben oui, Dungeon and Dragon.
Hasbro a acheté après.
Ouais, c'est vrai.
Hasbro a acheté... c'est que Peter Atkinson va à 98, TSR déclare faillite. Ouais. Peter Atkinson fait...
20 millions, c'est à moi.
À moi, il crée 3e édition de Magic. Puis à ce moment-là, Peter Atkinson a vraiment comme... Parce que quand même, Peter Atkinson, c'est les jeux de rôle. Il a vraiment délaissé le côté... Tu sais, Magic est en bonne main. La gang
avec Richard Garfield. On a trouvé une manière de fonctionner.
Ouais,
puis, je me concentre sur Donjons Dragon. Puis, vers 2000-2001, là, Peter Kinson a fait comme... Hey, je suis riche! Fait qu'il a vendu Wizard of the Coast à Hasbro.
Mm.
Et Hasbro est devenu riche en créant Monsieur Patate.
Ouais.
Et encore à ce jour, en 2018, le jeu le plus vendu envers la planète, c'est Monopoly.
Ouais.
J'ai checké l'autre jour.
C'est plate, ça.
Mais en tout cas, on va pas parler de Monopoly.
Non.
C'est comme ça que Magic a vraiment décollé.
Voilà.
Ils ont jamais décadré de ce que j'ai raconté là depuis.
Moi, je pense que ça finit pour cette semaine.
Oui.
Merci beaucoup, Jason. Mais c'est vraiment passionnant comme histoire. On va revenir plus en profondeur sur les personnages aussi, l'évolution des diégèses.
Donc...
Là, on était plus sur l'enrobage, sur ce qui vient. Merci beaucoup, Andy, encore une fois. Merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le site Facebook. Partagez, likez. C'est un podcast de Magic. Il n'y en a pas beaucoup et ça nous fait plaisir de vous l'offrir à chaque semaine sur les ondes de production podcast. Mon nom est Tommy Godette et on se rejase dans le futur. Allez, merci les gars.
Bisous.
On a du fun.
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.